Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 2 mai 2014, en direct du studio 13 à Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson, bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées hier dans ce qui semble être un attentat à la voiture piégée dans la banlieue d'Abuja. La presse centrafricaine est encore sous le choc après les attaques armées qui ont coûté la vie à Désiré Sayenga, du journal Le Démocrate.
Il était peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est avec beaucoup, beaucoup de peine que nous avons appris d'abord ce qui lui est arrivé.
Alexis Sindouidje, l'opposant burundais, a été retenu à l'aéroport de Bruxelles pour son avocat. Cela est incompréhensible.
Je suis particulièrement surpris de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Monsieur Sindouidje se présente à l'aéroport avec un passeport en règle et un visa en règle.
Voilà, tout en règle. Les forces africaines déployées en Somalie ont repris de nouveaux territoires à Al-Shabaab, mais le groupe terroriste n'a pas encore dit son dernier mot. Ces titres et bien d'autres dans cette édition, et on n'oublie surtout pas en fin d'émission nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
Au moins 19 personnes ont été tuées hier dans ce qui s'apparente à un attentat à la voiture piégée dans la banlieue de la capitale nigériane, Abuja. Les détails avec Darina Naidoo.
L'explosion a eu lieu dans la banlieue de Nyanya, à proximité du site de l'attentat du 14 avril dernier, qui avait tué au moins 75 personnes dans une station de bus. Le groupe extrémiste islamiste Boko Haram avait revendiqué cette explosion en avril et avait promis d'autres attentats. Le Nigeria doit accueillir le Forum économique mondial sur l'Afrique la semaine prochaine. Et le président Goodluck Jonathan a promis des mesures de sécurité extraordinaires lors de la rencontre. Le président Jonathan a souligné que son pays triomphera de ce qu'il qualifie, je cite, « de mal qui veut rabaisser l'humanité ». Boko Haram a tué des milliers de personnes en 5 ans d'insurrection pour mettre en place un État musulman extrémiste dans le nord du Nigeria. Les militants du groupe sont soupçonnés de l'enlèvement de plus de 250 écolières dans le nord du Nigeria il y a plus de 2 semaines.
Et selon des témoins, la police éthiopienne a tué au moins 17 manifestants qui protestaient contre l'annexion du territoire de la région d'Oromia pour l'expansion de la capitale Addis Abeba. Selon les autorités, seulement 11 personnes ont été tuées en rapport avec la manifestation, mais les autorités n'ont rien dit sur les circonstances de ces morts. Le principal parti d'opposition affirme que 17 personnes ont été tuées, mais des témoins et des habitants disent que le nombre serait beaucoup plus élevé. Les manifestations ont éclaté la semaine dernière contre le projet du gouvernement d'intégrer une partie de l'Oromia dans la capitale. Oromia, il faut le dire, est la plus grande région de l'Éthiopie et les Oromos constituent le plus grand groupe ethnique du pays.
Le secrétaire d'État américain John Kerry poursuit sa tournée africaine. Il a déclaré hier à Addis Abeba que les États-Unis soutiennent les efforts africains pour lutter contre les conflits sur le continent. M. Kerry a souligné que trop de pays sont à risque de sombrer dans la violence généralisée. Le secrétaire d'État américain a visité le siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne pour s'entretenir avec des responsables de la RCA, un pays en conflit. Hier également, il a rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Kenya au sujet de la guerre civile au Soudan du Sud.
L'opposant burundais Alexis Sindouidje a été retenu hier à l'aéroport de Bruxelles en Belgique. Le président du parti Mouvement pour la solidarité et le développement a passé la nuit dans un établissement fermé, d'après son avocat. Bernard Menguin affirme que son client était en transit pour Rome avec un passeport et un visa bien en règle.
Je l'ai rencontré au centre fermé pour les migrants qui sont en difficulté. Il est calme, reposé. Je suis particulièrement surpris de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Monsieur Sindouidje se présente à l'aéroport avec un passeport en règle et un visa en règle. Deuxième fait particulièrement grave, alors qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt qui est lancé contre Monsieur Sindouidje au niveau international en Belgique, des contacts sont organisés avec l'ambassadeur du Burundi. Selon mes informations, un mandat d'arrêt international est envoyé de toute urgence par Bujumbura à Bruxelles. Je demande aux autorités belges d'entamer une enquête approfondie au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau du ministère de l'Intérieur pour voir dans quelles conditions les événements se sont produits à Zaventem.
Voilà, c'était Maître Menguin, joint à Bruxelles par Nicolas Pinault.
Un casque bleu nigérian, enlevé il y a près de 2 mois au Darfour, dans l'ouest du Soudan, a été libéré. C'est ce qu'a annoncé la MINUAD, la mission conjointe ONU-Union africaine au Darfour, Idriss Fall.
Le sergent Aweissou Souleymane a été libéré à Niala, la capitale du Darfour Sud. D'après le communiqué de la MINUAD, il a été enlevé le 9 mars alors qu'il conduisait un camion transportant de l'eau pour les déplacer. Les milices arabes djanjaouides proches du régime de Khartoum sont pointées du doigt. Le chef de la MINUAD, Mohamed Ibn Chambas, a remercié les autorités soudanaises et nigérianes pour leur contribution à la libération du sergent. Il a aussi dénoncé une escalade alarmante de la violence ainsi que les actions particulièrement inquiétantes des Rapid Support Forces, un groupe paramilitaire, les offensives des rebelles, les activités criminelles et les combats intercommunautaires. En janvier 2013, 2 membres jordaniens de la MINUAD avaient été libérés après 136 jours de captivité. Au moins 16 casques bleus ont été tués en 2013 au Darfour. Depuis un an, ce conflit presque oublié a fait des centaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés.
Le président sud-africain Jacob Zuma a fait hier un appel du pied aux ouvriers célébrant le 1er mai. Il leur a demandé de voter pour les listes de l'ANC au pouvoir, autrement dit d'assurer sa réélection au scrutin du 7 mai prochain, Jean-Roger Billon.
Les ouvriers de ce pays doivent savoir que leur avenir se trouve dans l'ANC, a déclaré Jacob Zuma à environ 15 000 personnes dans un stade de Polokwane, dans le nord du pays. Le président sud-africain a cependant critiqué les grèves sans fin dans le secteur minier et a appelé les grévistes à reprendre le travail. Le vote ouvrier est essentiel en Afrique du Sud et le COSATU, le congrès des syndicats, ratisse large pour le pouvoir. L'ANC est donné largement favorite. Mais le chômage massif, la pauvreté et la corruption ont entaché l'image du parti 20 ans après la fin du régime raciste d'apartheid. Le président Zuma lui-même est accusé d'avoir dépensé des millions d'euros de fonds publics dans la rénovation d'une de ses résidences privées. La médiatrice Tuli Madonsela, chargée de veiller à une bonne utilisation de l'argent public, a jugé en mars que le président devait rembourser une partie des 16,5 millions d'euros dépensés pour la construction d'un amphithéâtre, d'une piscine et d'un poulailler dans sa nouvelle résidence. Mais lundi, une commission parlementaire a décidé de renvoyer l'affaire après les élections du 7 mai.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 13 personnes, dont 6 policiers, ont été tuées dans un attentat suicide dans le nord du pays. Selon le gouverneur de la province du Panjshir, Abdul Rahman Karimi, 4 assaillants ont fait sauter un véhicule bourré d'explosifs à un checkpoint très fréquenté. Plus de 20 personnes ont été blessées dans l'explosion, certaines dans un état critique. Les 4 assaillants ont également été tués.
En Irak, le décompte des voix continue après les premières élections générales du pays depuis le départ des troupes américaines en 2011. Le premier ministre Nouri al-Maliki a déclaré que le niveau élevé de participation était une gifle, je cite, au terrorisme et ceux qui voulaient perturber le scrutin. Il a exprimé sa confiance quant à la victoire de son parti et a appelé les autres à se joindre à lui pour former une coalition gouvernementale.
En Ukraine, des détonations ont été entendues ce matin dans une ville tenue par les rebelles dans l'est du pays. Selon les rebelles pro-russes, ces explosions près de Slaviansk font partie d'une attaque des forces ukrainiennes. Mais les médias occidentaux ont vu un hélicoptère militaire dans la région. Un photographe de Reuters dit avoir vu l'hélicoptère ouvrir le feu à la périphérie de la ville. L'Ukraine a restauré la conscription militaire obligatoire pour faire face aux séparatistes pro-russes. Ces derniers, de plus en plus violents, se sont emparés des bâtiments publics dans une douzaine de villes de l'est russophone de l'Ukraine.
Le nombre d'agressions sexuelles dénoncées dans l'armée américaine a bondi de 50% en 2013, selon des chiffres officiels dévoilés jeudi par le Pentagone. Mais cela ne veut pas nécessairement dire augmentation du phénomène, les précisions de Morgan Guiriec.
D'après le Pentagone, le nombre de cas d'agression et crimes sexuels portés à la connaissance des autorités militaires s'est établi à 5061 en 2013 contre 3374 l'année précédente. Le rapport annuel du Pentagone précise qu'il n'y a pas d'indication que cette hausse des dénonciations reflète une augmentation des faits criminels, mais au contraire, une confiance accrue de la part des victimes dans le système de réponse du département de la Défense. 71% des auteurs identifiés d'agressions sexuelles sont traduits devant une cour martiale. Les autres font l'objet de mesures administratives. 19 femmes sur 1000 au sein de l'armée américaine ont rapporté avoir été victimes d'agressions sexuelles. Le secrétaire à la défense Chuck Hagel, qui a pris ses fonctions début 2013 en pleine recrudescence des révélations de violences sexuelles, a juré de renverser la tendance. Il a mis en œuvre une vingtaine de mesures pour améliorer la prévention, les méthodes d'enquête ou encore l'assistance aux victimes d'agressions sexuelles. Il a annoncé hier 6 nouvelles mesures, dont les conditions d'accès aux boissons alcoolisées dans les rangs. Cependant, il reconnaît qu'il reste un long chemin à faire avant de résoudre le problème.
Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la voix de l'Amérique au micro Bagassi Koura. La presse centrafricaine est encore sous le choc après des attaques armées séparées de cette semaine qui ont coûté la vie à Désiré Sayenga du journal Le Démocrate et grièvement blessé René Padou de la radio La Voix de la Grâce. Timothée Dorengmaï a recueilli la réaction de Marcel Moukouapi, ancien président du GEPIC, le groupe des éditeurs de la presse privée indépendante de Centrafrique.
Nous sommes consternés et nous sommes vraiment abattus par ce qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils n'ont pas été une cible en tant que telle. Comme on dit, ils étaient peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais c'est avec beaucoup, beaucoup de peine que nous avons appris d'abord ce qui lui est arrivé. Et on espérait, parce que sa vie était quand même sauve au moment où il a été victime de cette attaque. Mais malheureusement, quelques jours après, il a succombé. Nous sommes vraiment affligés par rapport à ça, au même titre que pour notre confrère de la Radio Voix de Grâce. Et ça, on ne peut pas vraiment accepter. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est vulnérable. Ce n'est pas seulement les hommes de médias. Tous les Centrafricains sont vulnérables aujourd'hui.
Dans ces conditions, comment les journalistes centrafricains s'acquittent-ils quotidiennement de leurs devoirs?
Dans des conditions extrêmement difficiles. La presse centrafricaine n'est pas encore une presse comme... Il n'y a rien à comparer avec ce qui se passe chez vous, aux États-Unis et ailleurs. C'est une presse artisanale. Il y a une partie, on sent qu'ils ont vraiment la volonté de faire la profession. Il n'y a pas encore le respect de l'éthique et de la déontologie en tant que telle. Mais il y a une partie, c'est un peu vraiment des opportunistes. Hein. Ils viennent parce qu'ils savent que sortir un papier aujourd'hui, salir quelqu'un, ça leur permet un peu de vivre. Mais il faut reconnaître qu'il y a une volonté. Il y a quelques-uns que nous pouvons leur tirer le chapeau, qu'ils ont vraiment la volonté de faire un travail de communication, d'information, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a pas d'imprimerie ici. Il n'y a aucun centrafricain qui peut accepter aujourd'hui d'investir dans la presse pour donner les possibilités à ce qu'une presse soit crédible et que cette presse soit lue sur tout le territoire. Et même à Bangui, il y a un seul kiosque qui permet de vendre les journaux. Voyez-vous, ce n'est pas de la presse.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités centrafricaines par rapport à tous ces problèmes que rencontrent les médias en RCA?
Nous avons la chance d'avoir une présidente en public qui est quand même une personne qui a une formation supérieure en communication. Et j'ai l'impression qu'elle s'éloigne, elle s'éloigne vraiment de ce milieu. Elle est critiquée, mais ce n'est pas vraiment des critiques dans le sens de sa gouvernance. Ça, c'est regrettable. Mais si vraiment, en tant que professionnel des médias, elle aurait pu d'abord tourner vers les médias, les appeler dès les premiers instants et chercher à être à leur écoute et de dire comment est-ce qu'il avait. Parce que les informations aujourd'hui, on parle d'information humanitaire et tout. Mais il faudrait absolument que les pouvoirs publics soient sensibles à leur existence.
Voilà, c'était Marcel Moukouapi, ancien président du GEPIC, le groupe des éditeurs de la presse privée indépendante de Centrafrique. Il a été joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Les forces africaines déployées en Somalie ont repris de nouveaux territoires à Al-Shabaab. Mais ainsi qu'il a prouvé à plusieurs reprises, le groupe islamiste a plus d'un tour dans son sac. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le jour venait à peine de se lever que les soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, ont lancé un drone pour identifier le repère des militants d'Al-Shabaab. Les troupes ougandaises ont chassé les insurgés d'une bonne partie de la région ces derniers mois, mais ils sont loin d'avoir éliminé la menace islamiste. Les yeux rivés sur son écran, le soldat Dixon Arinegtwe, qui scrute les images envoyées par le drone, note quelque chose de suspect. Un groupe d'hommes en demi-cercle, et dès qu'ils nous ont détectés, ils ont disparu. Ainsi, comme par magie, l'ennemi s'est fondu dans la nature. Il faut reprendre les recherches. En mars dernier, les soldats ougandais ont reconquis la ville de Koriole, grand centre commercial de la région du Bachabel, au sud de Mogadiscio. De nombreux habitants avaient fui à l'approche des forces de la MISOM, mais la vie reprend peu à peu dans les rues. Pendant des années, le drapeau noir d'Al-Shabaab a flotté sur la principale place de Koriole. Il a été remplacé par le drapeau somalien. Malgré le succès militaire, le capitaine César Olweni de la MISOM reconnaît que le groupe rebelle somalien est loin d'être défait. Il se peut que quelques éléments soient encore présents dans la ville après avoir revêtu des vêtements civils et s'être fondus dans la population. Et ce groupe peut aussi être très dangereux. Al-Shabaab a adopté différentes tactiques depuis son éviction de Koriole. Il a notamment bloqué les sections de la rivière Chabel, provoquant le débordement des canaux d'irrigation et l'inondation des routes, une tactique qui a ralenti les mouvements des troupes de la MISOM et coupé les voies d'approvisionnement de Koriole. Conséquence, les gens ont du mal à se procurer des produits de première nécessité, explique le lieutenant-colonel Mohamed Abdi de l'armée somalienne. Pour compliquer les choses, l'armée somalienne s'avère incapable de rétablir le contrôle du gouvernement à Koriole ou dans d'autres villes reconquises. Les militants d'Al-Shabaab ont été repoussés plus au sud et d'autres opérations militaires sont en préparation en vue de les chasser de leur dernière base. Mais selon toute vraisemblance, les insurgés somaliens n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Direction l'Algérie à présent, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué hier l'attaque contre des militaires algériens en Kabylie le 19 avril dernier. 11 soldats algériens avaient été tués ainsi que 3 assaillants. L'attaque avait été menée 2 jours après la présidentielle du 17 avril contre des soldats qui devaient assurer la sécurité du scrutin. Idriss Fall a joint Ali Zawi, il est spécialiste des questions de sécurité à Alger.
Ce n'est pas le premier attentat en Kabylie. Cet acte qui a touché 11 militaires dans une zone très sensible, dangereuse, montagneuse, qui relie le QG des 3 wilayas, où abrite encore les groupes terroristes qui sont encore actifs. On peut dire que la présence persiste et la présence du terrorisme dans ces endroits. Il y a un soutien énorme des gens du MAC qui se prétendent encore opposition contre le régime algérien.
Mais est-ce qu'on sait où se trouve Abdelmalek Droukdel, qui est le patron d'ACMI?
Tout le monde en parle de Droukdel. Le problème, ce n'est pas Droukdel. Le problème, c'est ces terroristes qui sont inconnus. Parce que pour Droukdel, il est là quelque part, soutenu par des gens crépusculaires de la région.
Mais l'Algérie a été l'un des premiers pays à avoir subi le terrorisme dans les années 90. On a parlé de 300 000 morts, mais après autant d'années, est-ce que vous pensez que l'Algérie a fait des progrès dans le combat contre le terrorisme?
Bien sûr, c'est visible ce qui se passe maintenant. C'est rien, on sait très bien que le terrorisme en Algérie a disparu, mais il reste quelques crépuscules qui sont encore dangereux. Et on sait très bien que des années 90, le terrorisme faisait la loi. Ce qui s'est passé actuellement à Tizi Ouzou, c'est 10 fois rien ce qui s'est passé avant.
Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne, le patron du groupe Les Signataires par le Sang, il fait reparler de lui, il fait encore allégeance à Al-Zawahiri. Pourquoi maintenant?
Parce qu'on a des informations qui circulent que l'un des chefs d'Al-Qaïda se trouve actuellement en Libye. Que l'un des chefs d'Al-Qaïda se trouve actuellement à Dana. Et Belmokhtar actuellement se trouve en Libye. Que la Libye, on parle pas de la suite du régime libyen, mais aussi on parle de la suite d'un État complet. En quelque sorte, la Libye, son gouvernance. Aujourd'hui, on craint le pire. En fait, on craint que le départ d'Al-Qaïda à partir aujourd'hui, c'est depuis l'Afghanistan. Mais maintenant, c'est la Libye, le QG principal de l'Al-Qaïda en Afrique.
Ça peut être dangereux pour toute la région, ça.
La région et même le Moyen-Orient, à partir de la Libye, avec la libre circulation de 75 millions de pièces d'armes. Ne pas comparaître à la situation traversée l'Algérie durant les années 90, où elle était seule contre tous. Ce n'est qu'après le 11 septembre 2001 que tout le monde a ouvert les yeux que le danger parvient de le terrorisme.
Quand même, John Kerry est venu, si j'ose dire, passer les plaies. John Kerry est venu à Alger quand même vous soutenir, non?
Écoutez, on pense bien que John Kerry est venu pour 2 choses. La stabilité de l'Algérie en premier lieu et la situation dramatique en Libye qui inquiète tout le monde après la chute du régime libyen et aujourd'hui c'est la chute de la Libye carrément. Et que la menace provient de la Libye, surtout pour l'Égypte, ce qui se passe actuellement en Égypte. Et l'Égypte, elle ne sait pas encore s'en sortir de ce qui se passe et nous risquons de voir les jours très sanglants en Égypte.
Voilà, c'était Ali Zawi, spécialiste des questions de sécurité à Alger.
La Voix de l'Amérique sur Internet, www.lavoixdelamérique.com.
santé à présent. 20% seulement des personnes vivant avec le VIH dans les pays francophones d'Afrique centrale et de l'Ouest reçoivent le traitement antirétroviral dont ils ont besoin. Tel est le constat établi par Médecins sans frontières. En dépit d'énormes progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida, beaucoup reste à faire, Henri Francisque.
MSF estime que les gouvernements et les organisations caritatives doivent faire plus pour aider les personnes vivant avec le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. En dépit du taux relativement bas de séroprévalence dans ces régions, moins de 5%, seulement un malade sur cinq reçoit des antirétroviraux. De nombreux autres meurent avant le dépistage, faute d'accès aux équipements nécessaires. En revanche, dans les pays d'Afrique australe, comme au Malawi par exemple, 66% des personnes atteintes du VIH reçoivent les médicaments dont elles ont besoin. Des experts sont réunis cette semaine à Montpellier pour discuter des moyens d'améliorer le dépistage et le traitement des personnes atteintes du VIH en Afrique francophone. Parmi eux, le docteur David Maman de MSF.
On recommande pour l'Afrique de l'Ouest une meilleure intégration des soins, notamment au niveau des soins de santé primaire. Le transfert des tâches, s'il n'y a pas la capacité médicale pour initier le traitement et le dépistage du plus grand nombre, afin de pouvoir augmenter la proportion d'individus qui reçoivent des traitements ARV parmi ceux qui en ont besoin.
Dans certaines parties de l'Afrique, comme en Afrique de l'Ouest, vous avez très peu de médecins. Et dans certains pays, seuls les médecins sont autorisés à prescrire les ARV. Si bien que nous n'avons pas le même taux de couverture ARV qu'en Afrique orientale ou australe, où les résultats sont bien meilleurs. Selon le docteur Maman, la formation d'agents de santé, tels les infirmiers, dans l'administration des ARV, a été une stratégie à succès dans d'autres pays, en particulier dans les zones rurales. En outre, cette approche libère les médecins, qui peuvent se consacrer à des cas plus compliqués. L'autre défi en Afrique de l'Ouest et du Centre est que le dépistage et le traitement du VIH ne sont pas habituellement disponibles dans les services de santé ordinaires. Les patients doivent se rendre dans des centres spécialisés, généralement dans les grandes villes. Si quelqu'un vient dans un centre de santé et présente des signes d'infection au VIH, il doit être testé et, si possible, mis sous antirétroviraux là où il habite, afin qu'il n'ait pas à parcourir des centaines de kilomètres ou à attendre l'arrivée du médecin. Une étude conduite par MSF au Malawi a révélé que ce pays a réussi à ramener son taux de séroprévalence à moins de 0,5% dans un certain nombre de communautés en décentralisant les centres de traitement et en incorporant les soins contre le VIH dans les dispensaires ruraux. Une telle stratégie peut être mise en œuvre en Afrique centrale ou de l'Ouest, à condition qu'il y ait la volonté politique, a souligné le docteur Maman.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
En football, demi-finale retour de la Ligue Europa.
Battu 1-2 à l'aller, la Juventus Turin a été éliminée hier sur son terrain par le Benfica de Lisbonne. Les Transalpins ont concédé le match nul 0-0. En finale, les Portugais du Benfica rencontreront les Espagnols de Séville. Hier, le FC Valence a refait son retard en battant 3-1 Séville. Mais c'est Séville qui avance grâce au but marqué à l'extérieur.
Un nouvel entraîneur pour le Al Ahly d'Égypte.
L'entraîneur Fatih Mabrouk a pris les rênes d'Al Ahly en remplacement de Mohamed Youssef, a annoncé jeudi le club égyptien, 8 fois champion d'Afrique. En charge jusqu'ici de l'équipe des jeunes, Mabrouk aura pour mission de mener les Diables Rouges jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération africaine.
Et puis, émotion hier en Italie.
Des milliers de fans se sont réunis sur le circuit de F1 d'Imola, 20 ans jour pour jour, après l'accident qui a emporté le Brésilien Ayrton Senna. Resté encore aujourd'hui un mythe du sport automobile. Des dizaines d'enthousiastes ont pu conduire leur propre voiture autour du circuit Enzo et Dino Ferrari pour marquer le terrible accident du Grand Prix de San Marino en 1994. Pendant ce temps, aux États-Unis, les playoffs de la NBA se poursuivent, Bagassi.
Oui, hier soir, les Indiana Pacers ont battu Atlanta 95-88. Memphis est tombé face à Oklahoma City 84-104. Et enfin, tard dans la soirée, les Los Angeles Clippers croisaient le fer avec les Golden Gate Warriors. Après les sports, la musique maintenant avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Salut Bagassi, l'album Vue Claire de l'artiste congolais J-Blue est présentement sur les marchés des disques. Nous l'avons eu au téléphone.
L'album Vue Claire, c'est un album que j'ai vraiment essayé de me concentrer. Il y a ce qu'on appelle un métissage dans cet album. J'ai au moins 11 chansons dans cet album Vue Claire. Il y a la diversité du rythme là-dedans. Alors je tiens à recommander tous les Africains qui aiment la bonne musique, vraiment, cherchez cet album, il y a du boom.
Et ce métissage dont vous parlez là, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel style de musique que vous avez joué?
La première des choses d'abord, comme nous on est des Africains, on est des Congolais, j'ai fait la rumba congolaise, et deuxièmement il y a du décalé, et puis il y a du zouk, il y a aussi du rythme culturel, village.
Donc un peu la musique traditionnelle?
Traditionnelle, voilà.
Qu'est-ce que J-Blue est en train de dire dans Vue Claire?
Donc cela veut dire que j'ai essayé de parler sur ma vie pour dire aux gens, dans la vie, il faut être fort, un homme doit se battre. Donc j'ai essayé d'encourager les gens, les jeunes et tout le monde d'être fort dans la vie et de chercher, et vous allez trouver quoi.
Gebou, Vue Claire, merci Roger.
Bonne journée Bagassi.
Roger Muntu que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel.
VIP, Gisèle Monsizo et ses compagnons, Sylvie Massoua, Mami Rendo, Niki Ménage, Lissi Balengi. C'est la jolibilité. Claudia Sassou fait ce lady. C'est je passe à les bosses
ici.
L'idée de son homme aux Ayosi. Osta dans la Lille.
Miniko Corée.
MC Junior Bafouka VIP.
Moto Moto Chambé. Malasou Kana Komina Selembaou.
Président Sony et Chomo. Président Deli. Retrouvez des plaies chez Jean Citella, Nikes Bayaka, Gimbouana Mosen Zinablé, Kadris Kadiebwe, Eric Lemalema. Pepsi Nico Grosse Bango Minudi, Nyon Somakamo, Yoka Junior Madaka, Fondation Gaita Monakasala, Papingi Namau et Adrien.
Donc avec Vue Claire de J-Blue que s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Alberson a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Bagassi Koura au micro. Merci encore de rester en notre compagnie.